Bonjour, bienvenue dans Planche Casse-Zébule où avec Christol Seyec, nous allons comme d'habitude vous parler de bande dessinée. C'est extrêmement surprenant. Bonjour Christol. Alors, il y a plusieurs bandes dessinées aujourd'hui, il n'y en a aucune que nous avons détestée. Voilà, on ne va pas vous faire le coup chaque semaine. Et la première bande dessinée qui est tout à fait intéressante, c'est celle que tu nous présentes, Christol, qui est Le Sympathisant aux éditions Phileas.
Je dois avouer que je dois lire toutes les bandes dessinées qui sont des adaptations de romans. J'aime bien comparer le style et le récit d'un romancier avec l'adaptation en bande dessinée, ce qu'a pu en faire le scénariste et le dessinateur. Et à mes yeux, celle que j'ai dénichée, Le Sympathisant aux éditions Phileas, qui adapte beaucoup de romans bande dessinée, eh bien, à mes yeux, c'est une bonne surprise. Peut-être que certains éditeurs connaissent ce roman, puisque son auteur, Viet Thanh Nguyen, c'est comme ça que je vais le prononcer, a obtenu le prix Pulitzer avec en 2016. Et donc, pour dresser le tableau, nous sommes en 1975 à Saigon, au sud du Vietnam, à l'époque où les forces du Viet Cong, nord-Viet Cong, qui vont du nord au sud, vont bientôt prendre Saigon, et les Vietnamiens qui étaient fidèles au régime pro-américain sont forcés de quitter le pays. Et c'est donc un général de l'armée du Sud Vietnam qui choisit son capitaine préféré et certains Sud-Vietnamiens pour fuir aux États-Unis. Il laisse quelques amis qui restent donc au Vietnam et il part avec quelques autres. Et très rapidement, on comprend qu'à leur arrivée au Vietnam, le général, lui, reste conquis par le Vietnam et veut le libérer des communistes, tandis que le capitaine est en vérité un agent double. Il a été formé au communisme dans sa jeunesse, il est resté communiste et aux États-Unis, il entend bien aider le régime vietnamien devenu communiste. Et ce qu'on découvre de très intéressant dans ce récit, c'est la situation d'un Vietnamien dont un parent est blanc, l'autre asiatique, et il va aussi être balancé entre ses origines communistes et la vie aux États-Unis. Pour bien qu'on comprenne, la même semaine, il peut obéir au général et éliminer un Vietnamien supposé d'être communiste pour être considéré par le général comme toujours dans son camp et envoyer des lettres au régime communiste vietnamien pour révéler que le général est en train d'entraîner des soldats dans le désert près de Los Angeles. Et donc, il mène une vie très difficile. Il a des états d'âme qu'on peut comprendre. C'est la deuxième partie du récit. La troisième partie du récit, c'est la plus intéressante, où là, un petit corps expéditionnaire mené par le général parvient au Vietnam, proche du Vietnam. Il se fait arrêter. Et là, le capitaine va dans un camp de concentration. Même si c'est un agent double, les communistes vietnamiens veulent vérifier que ce n'est pas un agent triple. Et donc, il va devoir expier son péché d'être allé aux États-Unis, expier tout ce qu'il a pu apprécier du monde américain. Je ne dirai pas la fin, mais c'est un récit qui est intéressant parce qu'il permet de voir les défauts du communisme vietnamien, le mot défaut est faible, mais également en parallèle le défaut du monde américain tel qu'il était perçu à l'époque. Et en toile de fond, c'est la difficulté du thème de l'identité pour ceux qui sont métis entre deux civilisations différentes. Et ce n'est pas facile pour lui tous les jours. Alors, ce que j'ai apprécié, c'est vraiment le dessin. Il faut alors le scénariste, c'est un Français, Antoine Ozanam. Mais ce qui est intéressant, c'est le dessinateur. C'est un Vietnamien qui a vécu toute sa jeunesse au Vietnam et donc il habitait dans le Nord Vietnam, vraiment une région où les idées communistes étaient très diffusées. Et il lisait, c'est ce qu'il raconte au Vietnam, des mangas, des bandes dessinées. Il disait Tintin ou Lucky Luke, qui sont traduites au Vietnam, mais ce pays reste d'origine communiste, hein, d'idéologie communiste. Et il s'est réfugié en France en 2013 parce qu'il voulait devenir peintre en France. Il est devenu dessinateur de bande dessinée. C'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai bien apprécié son coup de crayon. C'est un coup de crayon assez, assez nerveux, qui révèle vraiment la psychologie des personnages, très expressif, avec aussi une grande sensibilité. Et le dessin, il est vraiment mis en lumière par la colorisation de, j'ai cherché son nom, de Greg Guyomont, qui également, avec une aquarelle et des couleurs sensibles, avec beaucoup de finesse, respecte le ton du récit. Alors, ce n'est pas un roman d'espionnage avec des combats. Il y a un petit peu d'espionnage comme aurait pu le faire John le Carré, mais c'est vraiment la thématique derrière cela, l'identité des métis qui sont confrontés entre deux civilisations différentes et de l'idéologie, où quand notre héros revient dans le monde communiste, eh bien, même s'il a très bien fait son boulot d'agent double aux États-Unis, le pouvoir communiste se méfie terriblement de lui. Il va même être jugé par son ancien camarade qui n'avait pas pu lui fuir aux États-Unis, qui était resté au Vietnam. Bon, c'est un thème intéressant, original. Ceux qui aiment les adaptations littéraires, je pense que ça vaut le coup de le lire. Franchement, c'est une bonne adaptation. Je dois avouer que je n'ai pas lu le roman. Je me suis contenté de lire les premières pages du roman pour comparer avec l'adaptation en bande dessinée. Et c'est fidèle. Donc c'est une bonne idée d'acquisition aux éditions Filias. Alors, faut dire deux mots sur cette maison d'édition qui a pour particularité de n'éditer que des adaptations de romans, plus ou moins réussies, et celle-ci, ça fait partie, à mes yeux, des bonnes réussites. Je ne sais pas si tu l'as parcouru,
Non,
cette bande dessinée, Richard.
mais ça m'a donné envie. Et c'est vrai que les éditions Filias ont tendance à qui sont une émanation en fait d'un groupe d'éditeurs, ont tendance à adapter les best-sellers. Et bah, parfois, c'est une bonne surprise. Et je me souviens que notamment les tout premiers titres étaient assez réussis. Ils avaient ciblé assez classiquement tout ce qui était policier, aventure. Et on avait des adaptations qui étaient intelligentes. Et puis, enfin voilà. Donc c'est comme d'habitude, quand c'est uniquement le succès public qui guide l'adaptation, on est parfois un peu méfiant, mais dans l'ensemble, Filas fait de bonnes choses. Moi, je vais vous parler une autre bande dessinée qui est Sinatra, Amour et Mafia de Amazing Amazian, aux éditions du Rocher. Alors, le Rocher s'est lancé dans la bande dessinée. Alors, ils ont une maison d'édition en tant que telle, Plein Vent, qui publie beaucoup de bandes dessinées très intéressantes. Et sous l'enseigne Édition du Rocher, il publie Amazing Amazian, qui est adapté 1984, on s'en souvient, il y a quelques années, qui aussi a produit Spielberg, Coppola, Tarantino, des grandes biographies de réalisateurs hollywoodiens. Et Amazian a un style inexistant parce qu'en fait, il a tous les styles. Dans ses bandes dessinées, il est capable aussi bien de faire des dessins et on a l'impression d'ouvrir une vogue dans les années 60. Et notamment, là, il y a quelques pages sur Ava Gardner, on a l'impression d'un article du New Yorker illustré par les gens de l'époque, si j'ose dire. Et il y a aussi des bandes dessinées qui sont presque schématiques. Il y a des vrais moments de bande dessinée classique, il y a des choses qui sont à la limite de l'expérimentation photographique. Donc, il y a une virtuosité graphique qui permet évidemment d'enrichir la lecture, peut-être parfois au détriment, ce jeu graphique, d'une véritable construction scénaristique et au détriment d'un effort de maîtrise d'une narration à l'intérieur d'un seul style qui en fait implique de résoudre beaucoup de problèmes de cadrage, beaucoup de problèmes de rendu des expressions, beaucoup de problèmes de rendu des matières, beaucoup de problèmes de focale. Et bah, le fait comme ça de varier, d'une part, c'est agréable, d'autre part, évidemment, il y a un petit côté tour de force et on sent que Amazing Amazian est très content de le montrer. Mais voilà, ça se paie sans doute. Cette richesse d'un certain manque de rigueur et parfois d'une certaine facilité dans certaines des séquences qui sont plus crayonnées qu'autre chose. J'entends bien que c'est un effet de style, mais on n'est pas toujours libéré du soupçon que c'est une facilité que le dessinateur s'est accordée à lui-même. Sinatra, par ailleurs, Amour et Mafia, donc le titre en entier, est une œuvre un peu curieuse parce que, évidemment, l'idée, c'est de nous dire que Sinatra est né dans un milieu où la violence et la violence du crime organisé étaient partie prenante. Voilà, son père est boxeur, donc on se doute bien que les matchs et tout ce qui est autour des matchs est étroitement contrôlé par le crime organisé. Lui-même devient chanteur à une époque où c'est la mafia qui possède, notamment dans cette partie des États-Unis, l'intégralité des marchés des jukebox dans les cafés. Donc évidemment, c'est facile pour eux de mettre les disques de Sinatra dans les jukebox pour que ce soit ceux-ci qui soient choisis par les consommateurs. Et on a comme ça deux ou trois personnages, Sammy Davis Jr., qui est un des narrateurs, un des truands aussi qui a participé à la naissance de Las Vegas, qui a été un des hommes de main des grandes familles de la mafia, qui raconte un peu les coulisses, mais on ne rentre jamais véritablement dans une biographie de A à Z de Sinatra. C'est un portrait, non pas impressionniste, mais cubiste, avec un certain nombre de facettes juxtaposées. Il n'est pas absolument certain qu'à l'arrivée, on ait un portrait juste de Sinatra, même si voilà les pages sur Ava Gardner, les pages sur Marilyn Monroe, les récits à la première personne de Sammy Davis Jr. Sont particulièrement émouvants. Et on sent d'ailleurs que Amazing Amazian serait presque plus tenté de faire une bande dessinée sur Sammy Davis Jr. et qu'il a peut-être choisi Sinatra parce que Sinatra est un nom plus fameux et un nom qui accroche immédiatement, aujourd'hui encore, le regard plus que Sammy Davis. Voilà. Je trouve que ce n'est pas le meilleur album de Amazing Amazian, mais en revanche, sur la durée, il est en train de bâtir une œuvre américaine, une œuvre sur la pop culture américaine et surtout sur les traces que cette pop culture peut laisser dans l'imaginaire européen et dans cette génération voilà qui est née avec les dents de la mer et non pas avec les travailleurs de la mer de Victor Hugo, donc les dents de la mer de Steven Spielberg. Et voilà, ça nous montre en fait comment cet imaginaire américain se sédimente. Voilà, donc, puisque je parle de sédimentation, je vais te renvoyer sur les piliers de la Terre, qui est une autre aventure, et qui est, elle, par contre, solidement bâtie et avec des fondations extrêmement solides.
C'est traditionnel moment où tu incites les auditeurs à
Mais
verser des fonds à Radio Courtoisie.
c'est vrai, et merci de me le rappeler. Voilà, ben, j'avais oublié. Donc, vous connaissez tous l'adresse soutenir.rc.fr. Voilà. On a bien sûr des ambitions pour Radio Courtoisie. Bien sûr, ces ambitions, elles sont d'abord de vous servir. Il y a eu cette grande enquête qu'on a réalisée en 2025. D'ailleurs, le prochain numéro de À l'écoute, qui est le journal qui est envoyé aux donateurs de Radio Courtoisie, permettra de non seulement de vous parler de cette enquête sur un grand article de 2 pages, mais aussi de vous parler des résultats de l'étude Médiamétrie sur les audiences. Elles sont très bonnes, on en est très content. Merci de nous être fidèles. Ben, voilà, si vous voulez que l'aventure continue, allez sur soutenir.rc.fr ou bien sinon, envoyez tranquillement vos chèques au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Merci beaucoup de m'avoir relancé, Christophe, mais merci de faire partie, toi aussi, des fidèles qui participent à la grande aventure. Et donc, malgré tout, les piliers de la Terre.
Alors, les piliers de la Terre nous replonge un peu dans la période bénie de la bande dessinée historique des années 80, éditée chez Glénat, même si cette série-là, les piliers de la Terre, n'a commencé qu'il y a 3 ans, elle est en cours, mais on retrouve un petit peu le même esprit, la qualité du scénario et un dessin très, très, très précis dans le détail qui reconstitue une période sur le plan historique de façon très sérieuse. J'en avais déjà parlé dans ton émission il y a 2 ans, je pense, pour le deuxième album, avec un petit regret, c'est qu'on était vraiment, on n'était pas vraiment pris par le scénario. Et je voulais en reparler puisque ça y est, le tome 3 vient de paraître. Et l'histoire, à mes yeux, démarre vraiment. Et ça m'a poussé peut-être à me demander si dans la bande dessinée, les séries ne connaissent pas vraiment leur intérêt à partir des tomes 3, 4, 5, plutôt que dès le premier. On a tendance souvent à voir dans les séries cinématographiques un grand succès pour le premier film, et après, c'est de moins en moins bon, pour finir souvent comme des navets. Par des navets. Dans la bande dessinée, parfois le premier album, même pour les grandes séries comme Lucky Luke ou d'autres, hein, eh bien, les auteurs créent l'atmosphère, le cadre, et parfois ils creusent le sujet et ça devient plus intéressant dans les tomes suivants. En fin de compte, c'est vraiment ce qui se passe dans les piliers de la Terre, où je rappelle que le scénariste adapte encore une fois ici un roman, Les piliers de la Terre de Ken Follett. un grand succès anglo-saxon, 15 millions d'exemplaires. Il a même prévu le scénariste de l'adapter en 6 albums, ce qui fera en tout 500 planches de bande dessinée, ce qui est énorme, un très beau projet. Et ce scénariste-là respecte le scénario de Ken Follett à la lettre, hein, il n'y a pas de surprise. C'est l'histoire très intéressante, en toile de fond de l'édification d'une cathédrale en Angleterre au XIIe siècle, l'Angleterre qui était encore à l'époque catholique. Et au premier plan, nous avons les luttes entre le pouvoir politique, différents seigneurs, entre le pouvoir religieux, différents évêques, pour la construction de cette cathédrale, puisque c'est un enjeu économique et spirituel fondamental pour la région où elle va être édifiée. Et c'est vraiment l'intérêt du troisième tome de nous plonger dans cet enjeu politique, entre les seigneurs et entre les évêques, pour déterminer tout simplement où va être édifiée la cathédrale. Un exemple parmi d'autres, il est décidé d'édifier la cathédrale dans une ville. Eh bien, l'évêque de la seigneurie d'à côté va empêcher les constructeurs d'utiliser les pierres de sa carrière et se plaindre à l'archevêque que les travaux n'avancent pas en disant qu'elle se déplace chez moi, cette construction, ce sera bien plus rapide. Des coups tordus, il y en a plein dans ce scénario. Et c'est assez jubilatoire de voir qu'à toutes époques, en tout milieu, même dans notre belle Église catholique, il y a eu des combats qu'on peut regretter. Mais l'homme est pécheur, il le reste, quelles que soient ses fonctions sur Terre, il faut le penser ainsi. Le dessin, je l'ai dit, est vraiment très précis, très classique, hein, Stephen Dupré. Eh bien, il reconstitue à merveille cette Angleterre qu'on a déjà indiquée, celle du XIIe siècle. On a plaisir à revoir les monastères, les châteaux, les églises, les cathédrales, la vie aussi des gens lors d'un marché, des scènes de marché, la pauvreté, les scènes à la campagne, les scènes de nuit, de jour, avec des planches vues de haut, vues de bas. Il y a beaucoup d'effets dans la construction des planches. C'est chez Glénat et je dirais que, comme pour la présentation, ceux qui vraiment avaient apprécié la BD historique des années 80 chez Glénat, eh bien, ils s'y retrouveront dans cette série Les Périls de la Terre. C'est pas un immense chef-d'œuvre, hein, je le dis, mais on a plaisir à lire ce récit-là. On ne sera pas d'accord avec toutes les idées de Ken Follett, qui quand même critique beaucoup le monde catholique, mais on passe un moment très agréable.
Voilà. Je voudrais revenir sur ce que tu disais au début sur les séries. Et c'est vrai que au début, il y a un album qui paraît, on imagine un héros, on commence à le faire vivre dans des histoires courtes, dans les périodiques, dans les illustrés pour enfants. Et puis peu à peu, il y a un album qui paraît et l'économie de la bande dessinée se transforme. Et voilà, donc c'est l'album qui devient le premier produit et moins la prépublication. Et bah, les séries qui s'installent, évidemment, ont tendance à tirer à la ligne, mais on a, un peu comme dans Starsky et Hutch, c'est-à-dire une fois qu'on a posé les personnages, chaque épisode est clos sur lui-même, et puis arrivent maintenant les nouvelles séries qui, elles, empruntent évidemment à ces nouveaux arcs narratifs où l'intrigue n'est pas résolue d'un seul coup, il faut voir les 6, 10 ou 22 épisodes de la saison complète pour que l'ensemble des arcs narratifs soit résolu, pour que l'ensemble des histoires et des sous-histoires soient bouclées. Et la bande dessinée, et d'une certaine manière, le roman, emprunte ce chemin, c'est-à-dire qu'on a maintenant à faire un effort cognitif, c'est-à-dire les prémices ne sont pas forcément les plus spectaculaires, mais en revanche, voilà, sur la durée, l'album peut être très bon, et voilà, bah, on sait que 13, il était prévu d'avoir d'abord 5 albums, et on racontait cette histoire en 5 albums. Alors, évidemment, William Vance avait décidé de faire en sorte que le premier album soit absolument captivant, comme il y a parfois des pilotes de série voilà, qui se font en sorte d'être suffisamment intrigants ou captivants pour que tout le monde ait envie d'être collé devant l'écran. Mais maintenant, on admet que à l'époque du binge-watching, on ne devrait pas dire ça sur Radio Courtoisie, à l'époque où on peut consommer, si on veut, une série tout entière, les 8, 10 ou 22 épisodes, sans attendre qu'ils soient diffusés hebdomadairement, eh bien, le premier épisode n'a pas besoin d'être aussi haletant et palpitant, et peut-être que la bande dessinée aussi emprunte cette voie-là et qu'on se retrouve avec des scénarios qui sont plus lents au début, le temps de poser le décor, de poser les personnages. Non.
J'ai peut-être une explication assez terre-à-terre. On peut imaginer que le scénariste et le dessinateur, pour ce premier album d'une série qu'ils espèrent longue, ne se doutent pas du succès. Peut-être que, enfin on le sait, c'est pas peut-être, c'est une certitude que Hergé, Goscinny, Uderzo, lors du premier album des aventures de Tintin pour le premier ou d'Astérix pour le deuxième, ils se doutaient pas du formidable succès. Et si on prend Hergé, c'est je crois à partir de Lotus Bleu que vraiment, il a voulu bâtir un vrai scénario et passer plus de temps sur le dessin. Et peut-être qu'au fil du succès, ils se disent, c'est vraiment, ça plaît à beaucoup de monde, je vais donner le meilleur de moi-même dans les albums suivants.
Voilà, mais peut-être. Donc, il faudra rentrer dans la fabrique de la bande dessinée avec ceux qui la font. Mais le dernier album dont je vais vous parler, c'est La Civilisation du Poisson Rouge. Lui aussi, c'est une adaptation d'un ouvrage déjà paru. En fait, c'est l'adaptation de deux ouvrages de Bruno Patino, La Civilisation du Poisson Rouge, et un autre qu'il a écrit ensuite, à la suite du succès du premier, où il nous parle de cette civilisation, en fait, où le temps de cerveau disponible d'un humain est de 9 secondes aujourd'hui. Du poisson rouge étant de 8 secondes, c'est-à-dire un poisson rouge oublie toutes les 8 secondes ce qu'il a fait les 8 secondes précédentes, sans même parler évidemment de la minute d'avant et de l'heure d'avant. Et on se retrouve aujourd'hui, grâce évidemment à la numérisation des relations sociales, à la numérisation de n'importe quelle interaction qu'on a avec l'administration, à la numérisation en fait de l'intégralité de nos vies quotidiennes, à être en permanence happé par des écrans qui sont conçus pour certains d'entre eux pour être effectivement captifs et pour faire en sorte d'entraîner une quasi-dépendance. Vous savez qu'il y a en ce moment aux États-Unis un procès qui s'ouvre avec une jeune femme de 20 ans, si je ne m'abuse, qui est en train d'intenter un procès à Meta, si je ne m'abuse, mais si ce n'est pas Meta, c'est son frère, en l'accusant d'avoir détruit sa vie, puisque de ne l'avoir pas assez averti sur cette dépendance aux réseaux sociaux. Elle passait jusqu'à 16 heures par jour sur les écrans, à chercher on ne sait pas quoi. Voilà. Et cette civilisation numérique fait en sorte que le temps de cerveau disponible et devient extrêmement rare, étant donné qu'il y a tant de personnes pour le solliciter, ses cerveaux, et donc les tactiques les plus addictives sont évidemment celles qui sont mises en avant par l'ensemble des acteurs, pas simplement privés, même les acteurs publics, évidemment, tiennent à retenir votre attention. Et Patino raconte, en fait, comment Internet, comment les réseaux sociaux, comment les applications qui font notre quotidien, pour certains d'entre nous, ont émergé, comment elles ont été conçues et comment, très volontairement, voilà, et l'idée était de faire en sorte que il y ait une fin insatiable qui soit déclenchée, une fin d'information, une fin de contact, une fin de vidéo, une fin de ce que vous voulez, voilà, pour que les gens passent du temps et que ce temps, évidemment, soit valorisé d'une manière ou d'une autre, soit parce que à un moment donné, vous passez à la version payante de tel ou tel service, soit parce que vous êtes comment dire, exposé à des publicités, soit parce que voilà, vous avez donné vos coordonnées et vous avez renseigné des fiches et que, du coup, votre profil est établi et ce profil peut être vendu, etc. Et la bande dessinée est dessinée par Morgan Navarro. Morgan Navarro était un dessinateur avec un trait un peu caricatural, un peu à la limite du croquis. C'est pas un trait aimable, en revanche c'est un trait qui est particulièrement clair, particulièrement explicite. Il est pédagogique dans sa représentation, les couleurs sont extrêmement acidulées, on a l'impression d'être dans un vieux Strange des années 70, c'est assez amusant. Et il a surtout été connu par un blog qu'il faisait paraître sur le journal du Monde, qui était le journal d'un réactionnaire, Donc c'était dans les pages, comment dire, numériques du Monde. Et il y a eu deux albums chez Dargo. Je me souviens, je l'avais interrogé pour Valeurs Actuelles. Et ça lui a valu une réputation absolument horrible. Non seulement il dessinait les aventures d'un réactionnaire qui n'était pas woke, mais en plus il avait accepté d'être interrogé par un type de VA. Et donc le malheureux, j'ai été à deux doigts de ruiner sa carrière, donc malgré moi. Il m'avait appelé après en m'expliquant qu'il ne regrettait pas du tout de m'avoir parlé, mais qu'il était quand même en train de manger ses vers. Donc là, il a su rebondir, merci. Et cette bande dessinée est vraiment intéressante. Voilà, ça fait partie de ce lot de bandes dessinées documentaires qu'on voit apparaître, qui sont les adaptations, là aussi, généralement, des ouvrages, des essais grand public à succès. Ça a vraiment un mérite. Alors, à côté de ça, Bruno Patino, évidemment, nous parle de temps de cerveau disponible, et puis après, il nous parle des dangers de la manipulation, et on sent bien que Bruno Patino est un type de gauche bien installé dans la gauche morale française, et donc tous les exemples qui sont mis en avant, et Morgane Navarro les souligne, sont des exemples pour nous décourager d'être vraiment à droite. Voilà, ou en tout cas, ce sont des exemples qui nous montrent jusqu'où on peut aller, puisqu'on peut vraiment devenir très à droite si on ne fait pas très attention. Bah, indépendamment de ce biais gauchiste un peu risible, quand on voit à quel degré en sont arrivés les militants insoumis dans leur soumission à Jean-Luc Mélenchon, c'est un bon album, c'est un album intéressant, et c'est l'un des premiers albums du genre chez Dupuis qui n'a pas vraiment l'habitude de la bande dessinée documentaire. Voilà, on arrive au bout de cet épisode de Planche, Case et Bulle. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je rappelle Le Sympathisant chez Phileas, le tome 3 des Piliers de la Terre chez Glénat, Sinatra, Amour et Mafia aux éditions du Rocher, et 9 secondes, La Civilisation du Poisson Rouge chez Dupuis. Voilà, une fois de plus, n'hésitez pas, feuilletez ces albums chez les libraires avant de les acheter ou de les offrir ou de ne pas les acheter, et de nous envoyer des réprimandes bien senti sur le fait que nous n'avons aucun goût, ni Christol ni moi. Très bon week-end à tous, très bon samedi dimanche, devrais-je dire, et à très bientôt, c'est-à-dire à samedi prochain.